Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, ma.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.
Il est 6 heures, on est ravis de vous retrouver sur Syllabe pour cette nouvelle semaine de notre émission d'actu locale. Je sais pas si vous m'entendez, si a priori, j'ai pas de retour. Bon, c'est pas grave, l'important c'est que vous m'entendiez. Et on est lundi, on est bien, ouf, on est tous contents d'être là. Les 28, 29 et 30 novembre, c'est le festival Culture Barbare. Cette 22e édition à Rennes représente plus de 201 artistes dans 19 bars partout dans la ville. Syllabe vous propose de remporter 2 places par soir et par concert. Pour les concerts proposés au Melody Maker, à l'Amrock et à Grabuge, pour les gagner, vous aurez besoin d'un mot de passe que je vous donne tout de suite. Le mot de passe est Conan, je répète Conan, c'est simple, barbare, Conan. Ça fait une super contrepétrie d'ailleurs. Tu l'as, Eva ? Non ? Je sais pas. Pour en savoir plus sur le concours ou pour jouer, rendez-vous sur syllabe.fr, rubrique concours du moment. Tout de suite, le flash. La Russie intensifie ses frappes contre l'Ukraine. Une attaque contre la ville d'Odessa a provoqué aujourd'hui la mort d'au moins 10 personnes. 43 autres seraient blessées, selon les autorités locales. L'ennemi a insidieusement envoyé son missile vers une zone résidentielle et d'activité commerciale, a affirmé le maire de cette grande ville du sud du pays. Ce week-end, Moscou a multiplié les attaques de missiles et de drones contre les villes et les infrastructures énergétiques du pays. On parle aussi aujourd'hui d'un système de livraison complètement cosmique. Une start-up franco-allemande, The Exploration Company, annonce avoir levé 150 millions d'euros pour construire un vaisseau cargo réutilisable. Son nom, Nix, son but, transporter du matériel depuis et vers la Station Spatiale Internationale. Nix pourra contenir jusqu'à 3000 kilos de fret. Un vol prototype aura lieu l'année prochaine. Premier transport de fret prévu pour 2028 pour le compte de l'Agence Spatiale Européenne. Aujourd'hui commencent les rencontres du G20. Le groupe des 20 est composé de 19 pays et de l'Union européenne. Lors de ces rencontres intergouvernementales, les chefs d'État, les ministres des Finances et les chefs de banque centrale des pays viennent discuter de la situation économique mondiale et débattre sur des solutions aux crises économiques actuelles. On leur souhaite bon courage. Mais ils vont également échanger sur un sujet qui fait rage en ce moment en France, Eva.
Rage, colère et plein d'autres synonymes de colère. Depuis hier, les agriculteurs et agricultrices se mobilisent en force. Ce matin, c'était sur le pont de l'Europe près d'Avignon que plusieurs dizaines de tracteurs ont bloqué la route entre le Gard et le Vaucluse, selon France Bleu Vaucluse. Hier, c'était la Nationale 118, direction Paris dans les Yvelines, qui a été ralentie face à 200 agriculteurs dans leur très cher tracteur, selon France Info. Depuis aujourd'hui, au moins d'importants blocages et diverses mobilisations se produisent partout en France et vont continuer de se produire dans les jours à venir. Ces événements font suite à l'appel début novembre de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, à se mobiliser et faire entendre leurs différentes plaintes. Selon Christophe Bonnet, éleveur interviewé par France Info, la récolte de blé de cette année est la moins fructueuse depuis 40 ans. Et ça en partie dû aux perturbations climatiques, aux maladies et épidémies se propageant dans les terres et chez les animaux, mais aussi à des promesses non tenues. Enfin, depuis 2024, de nombreux engagements avaient été émis par le gouvernement Attal pour soutenir la crise agricole, mais la concrétisation de ces derniers s'est vue ralentir par la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, en ce mois de novembre, la colère revient, à bruit de tracteurs sur les axes routiers. Malheureusement, un plus gros problème pour les agriculteurs et agricultrices français a ressurgi après avoir été mis sous le tapis pendant quelques années. L'accord de libre-échange entre le Mercosur, le marché commun du Sud regroupant le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie, et l'Union européenne. Cet accord a pour but de faciliter les échanges de biens entre le Mercosur et l'UE, comme les exportations de viande par exemple. Les négociations entre les pays concernés s'étaient pourtant terminées en 2019 avec un accord sur principe. Mais quelques mois après, Emmanuel Macron s'est opposé de nouveau à l'accord car, selon la Libre Belgique, le président français doutait des engagements environnementaux du président brésilien. En effet, les normes d'hygiène et environnementales diffèrent entre l'UE et les pays du Mercosur. Par exemple, dans le Mercosur, les élevages de poulets autorisent l'utilisation d'hormones de croissance, qui sont interdites en Europe. Cependant, avec l'accord définitif de libre-échange, les exportations de viande et volailles d'Amérique du Sud vers l'UE n'auront pas d'obligation à respecter les mêmes règles d'hygiène que pour les élevages français, par exemple. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, explique dans un tweet. L'accord avec le Mercosur, c'est 99 000 tonnes de viande bovine importée en Europe, soit 8% des meilleurs morceaux consommés en Europe et provenant de pays d'élevage utilisant des antibiotiques, hormones de croissance ou insecticides interdits en France, avec une traçabilité quasi inexistante. Soit, si l'accord est accepté définitivement, la facilité d'exportation de ces viandes ne respectant pas les normes pourrait mettre à mal à la fois le monde agricole, mais aussi les consommateurs français.
Merci Eva pour toutes ces explications. Un suspect interpellé à Paris dans l'affaire du meurtre de la rue Papu à Rennes. Le 12 novembre dernier, un homme de 49 ans a été mortellement poignardé dans le quartier de Bourg-l'Évêque, devant la pension de famille Marie Heurtaux, où il était hébergé. La victime était décédée avant l'arrivée des secours. L'auteur du crime, quant à lui, avait pris la fuite devant les témoins de la scène. La piste du règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants est évoquée. Fini les rustines, on passe aux choses sérieuses. Du côté de l'église du Moulin du Comte, 500 000 euros, c'est le coût des travaux réalisés par l'entreprise Charrier TP pour le réaménagement des berges du chemin du halage. Le chantier débute aujourd'hui et se poursuivra jusqu'en mars 2025, une opération importante et rare en ce contexte particulier de restrictions budgétaires imposées par le gouvernement aux régions. Cyriane s'y est rendue et nous explique ce qu'il s'y passe.
Il y a encore une semaine, la Vilaine se la coulait douce en ville. Mais aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un petit mètre. Éléonore Nadan, responsable pour la région de la subdivision Vilaine et Canal d'Illérance, nous explique les raisons de cette pratique.
Donc là, on fait un abaissement d'un mètre qui va permettre en fait à l'entreprise de voir beaucoup mieux ce qu'elle fait, de travailler quasiment entièrement à sec. En fait, il y a eu des phénomènes d'érosion très forts qui ont créé des cavités sous la surface de la berge avec des effondrements qui se sont multipliés dans les dernières années avec les poussées d'eau, les sécheresses. Enfin voilà, l'érosion avance et on se retrouve avec des berges verticales à pic.
Conséquence, une augmentation accrue des risques de chute à l'eau sur ce chemin largement emprunté par cyclistes, piétons et piétonnes. Un type d'opération de prévention nécessaire partout dans la région et qui ici use, pour ses travaux, de techniques de génie écologique.
Nous, on a fait le choix de faire une technique végétale avec des enrochements qui viennent reconstituer la berge dans la partie la plus basse et la partie immergée. Et surtout, on rajoute une couverture de terre végétale, dans laquelle on va planter ce qu'on appelle des plantes hélophytes, donc des plantes qui vivent les pieds dans l'eau. En faisant ça, donc la berge repart pour au moins 50 à 100 ans. Et en faisant ça, on accueille beaucoup de biodiversité. Les poissons peuvent venir se reproduire, les poules d'eau, etc.
Des petits lézards, des pierres quoi. Ouais.
C'est une espèce protégée, de plus en plus maintenant. Ce qui a été décidé, c'était de ne pas toucher à la roche, de ne pas toucher à son habitat et de s'arranger pour que les machines interviennent autour, etc.
Une opération bénéfique pour la mairie rennaise, désireuse d'une meilleure cohabitation entre nature et ville. En témoigne la future démolition du parking Vilaine, situé place de la République et non loin du chemin du halage, comme le souligne Marc Hervé, premier adjoint à l'urbanisme de la ville.
L'idée derrière le parking Vilaine, c'est en fait de retrouver la Vilaine et d'avoir, à partir de la place de la République, pour avoir une nouvelle promenade en Rennes-Vilaine, donc d'avoir un parcours qui corresponde aussi à la recherche d'îlots de fraîcheur, parce qu'on sait que les étés vont être de plus en plus chauds, et donc de retrouver des lieux où on est en lien direct avec l'eau, c'est un des éléments qui guide l'aménagement du centre-ville.
Un abaissement radical du niveau de l'eau qui permettra aussi un grand ménage hivernal du canal. Les agents et agentes de la région risquant bien d'y retrouver trottinettes, vélos, motos et panneaux de signalisation, entre autres joyeusetés dont regorge la Vilaine. Dans la Vilaine, on peut peut-être aussi bien trouver des mégots. Je ne sais pas si vous le saviez, mais un mégot jeté par terre peut mettre jusqu'à 12 ans pour se dégrader. Loin de disparaître, ce déchet se retrouve bien souvent dans les rivières ou la mer. Dans un seul mégot, on trouve 2500 matières toxique. Mauvaise idée donc que de le balancer par terre. Pour éviter cette pollution omniprésente sur nos trottoirs, la mairie de Rennes vient de lancer un partenariat avec l'éco-organisme et organisme Alcom. 5000 cendriers de poche vont être distribués dans 56 bureaux de tabac de la ville, et ce en plus des 160 cendriers de rue déjà installés dans la capitale bretonne, et au passage les 135 euros d'amende pour le jet d'un mégot par terre. En parlant de pollution, ça tombe bien, nous entamons tout juste la semaine européenne de réduction des déchets. Pour l'occasion, l'Université de Rennes propose plusieurs rendez-vous. Ce soir, juste après 6h avant minuit, c'est ciné-concert dans l'amphi A du bâtiment 2A de la fac de Beaulieu. Le thème, le minimalisme, illustré par le film « Il en faut peu pour être heureux », c'est dès 18h30. Et demain, pourquoi ne pas participer à une clean run ? Départ à 15h30 sur 3 campus en simultané. Rendez-vous à la fac de droit, à l'Acora de Villejean ou à Beaulieu. Au début du mois, Janelle et Léane sont allées au bal à la Bouaise. Elles nous racontent.
À Rennes, ce jeudi 7 novembre, s'est déroulée la 3e édition du bal de la Bouaise. Un fest-noz qui met à l'honneur la musique et la danse traditionnelle bretonne. Mais pourquoi danser la gavotte quand on peut écouter de la musique moderne ? Nicolas Rosé, président de l'association La Bouaise, nous répond.
On a une culture locale qui est hyper riche. C'est vraiment important de transmettre et de faire vivre et de mettre en valeur cette culture-là. Donc ça passe par des événements comme le bal de La Bouaise aujourd'hui.
Au bal de La Bouaise, on ne fait pas qu'écouter de la musique bretonne. On la vit. Au son instrumental du biniou et de la bombarde, on se laisse emporter par les danses traditionnelles. Nous avons recueilli les témoignages des participants pour comprendre leur attachement à cet événement. Robert, 72 ans, habitué des lieux, nous explique.
Ma foi, toute la bande de la Bouaise, c'est une bande de bons copains depuis très 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 longtemps. L'ambiance a évolué dans la soirée, là, c'est sûr. Ça va filer jusqu'à minuit et quelques. Évidemment, ça va progresser, ça va évoluer durant la soirée. Si on entre, les gens sont très simples, c'est très très convivial, c'est très friendly.
La plupart des participants évoquent une ambiance amicale, ce que Christine confirme.
Y a une sorte de transe et puis l'ambiance est sympa. On a beaucoup, beaucoup d'amis. Là, on connaît la moitié des personnes. C'est impressionnant, le cercle en fait, des personnes qui aiment la danse, surtout dans le pays rennais.
Mais derrière cette ambiance festive, peuvent se cacher des défis. Ces traditions sont-elles en danger ?
Les défis, c'est de continuer à le faire vivre, ouais. C'est de continuer à le faire vivre et qu'il y ait du monde et qu'il y ait des plus jeunes aussi, à s'y intéresser, à s'en occuper, à y venir. Nous, on considère qu'on a gagné quand il y a des nouvelles personnes, quoi.
Le patrimoine breton, il va se conserver en autant qu'on le pratique. Il vient d'hier, il est toujours d'aujourd'hui, puis il sera de demain si on continue de le faire.
Si vous êtes curieux d'en découvrir plus par vous-même, n'hésitez pas à les retrouver le 1er février 2025 à l'Épi des Longchamps. Et si vous hésitez encore à venir, les participants vous ont adressé quelques mots pour vous y inciter.
Faut juste rentrer pour se rendre compte.
Faut qu'ils viennent voir, faut qu'ils viennent regarder ce qui se passe et même risquer de mettre un pied dans une ronde.
Ça casse toutes les soirées discothèques où tu danses tout seul et pas forcément avec d'autres, quoi. Donc là, c'est un bon compromis.
Je ne sais pas si tous ces fêtards se sont rendus en covoite jusqu'à la Bouaise. En tout cas, ce type de déplacement est sur le point de se développer au sein de la métropole de Rennes. À partir du 1er janvier, elle lancera un nouveau service de covoiturage en partenariat avec BlaBlaCar. Les conducteurs et conductrices utilisant l'appli Covoitstar recevront une compensation de 1,50 euro à 3 euros par passager passagère selon le trajet. Le tout plafonné à 2 déplacements par jour et limité à 150 euros par mois quand même. Du côté passager, le trajet sera gratuit les 6 premiers mois, puis coûtera 50 centimes, peu importe le nombre de kilomètres parcourus. Ça donne envie d'abandonner l'autosolisme, non ? Eva a plein d'invités autour de la table ce soir.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Habillée avec plein de couleurs et un nœud de cheveux me rappelant que c'est bientôt Noël, Margot Sébir, coordinatrice du collectif Prison Rennes, est en face de moi. Bonjour.
Bonjour. Faut pas que j'aille chez le coiffeur du coup maintenant pour qu'on me reconnaisse dans la rue.
Et oui, malheureusement. Et à ma gauche, plus sobrement, pull et cardigan blanc, Yuna et Kaelik, des étudiants de la FAB, Fédération des associations de Haute-Bretagne, sont avec moi également.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, je voudrais vous demander, Margot, qu'est-ce que le collectif Prison Rennes ?
Alors le collectif Prison de Rennes, c'est un collectif, comme son nom l'indique, qui a en son sein une quinzaine d'associations qui interviennent en détention le temps de l'incarcération ou avec les proches de la personne détenue. Le but de ce collectif, c'est de se retrouver entre nous, entre pairs associatifs, pour pouvoir débattre et échanger des des conditions d'incarcération qui changent beaucoup, du lien avec l'administration pénitentiaire avec qui on est, puisque nous sommes des compléments, je pense, à toutes ces associations sont des compléments à l'incarcération de la personne. Et voilà, donc ça se traduit par des grandes réunions entre eux, et ça se traduit autour d'un événement dont on parlera certainement un peu plus.
Bientôt, ça arrive. Mais tout d'abord, je voudrais savoir comment est-ce que ça s'est fait, cette création de ce collectif regroupant ces associations rennaises.
En fait, il y a des grandes associations nationales qui existent. Hein. Donc, on a plusieurs associations autour de thématiques particulières. Donc, on a les associations qui sont autour du lien social, comme par exemple les visiteurs de prison ou les petits frères des pauvres, qui sont des grosses associations qui sont connues sur d'autres grandes villes et qui travaillent déjà en lien avec la question de la détention et qui se sont unies les unes avec les autres, avec d'autres qui ont repris le wagon en marche sur des thématiques un peu plus précises aussi, sur l'accompagnement administratif aussi des personnes en détention, sur aussi l'accompagnement du lien familial, pour ceux, on en reparlera je pense un peu plus aussi ce soir, et sur d'autres, voilà, l'accompagnement religieux aussi, parce qu'il y a aussi ça, et l'accompagnement scolaire par exemple. Mmh. Et donc toutes ces associations se sont dit à un moment donné, on ne peut pas agir seul, et à plusieurs on est plus fort pour parler de ce sujet qui est compliqué, et cet accompagnement bénévole hein, qui est compliqué et qui a besoin, je pense, de se retrouver pour analyser collectivement un peu ce qui s'y passe pour pouvoir continuer les actions bénévoles.
Oui, vous avez parlé des aides pour garder les liens familiaux. Je trouvais ça intéressant, par exemple, pour les enjeux enfants qu'accompagnent les enfants au parloir. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu plus sur ces associations, sur celle-ci, par exemple?
Oui, alors c'est enjeux d'enfants, mais je ne t'en veux pas du tout. Je rectifie, il n'y a pas de souci. Enjeux d'enfants, c'est une association qui, effectivement, accompagne les enfants à aller au parloir. Déjà, pour les adultes, c'est, je ne sais pas si autour de la table, vous avez eu l'occasion d'aller visiter un détenu en parloir, Kaylee Kouai. C'est pas simple pour nous, déjà, en tant qu'adultes. Alors, pour un enfant, c'est très compliqué. Et donc, cette association compte beaucoup de bénévoles qui accompagne un peu comme une petite mini-formation pour les petits-enfants, pour dire en fait tu vas aller voir papa ou maman en prison, il va se passer ça. Tu vas pas pouvoir peut-être le prendre dans tes bras comme tu ferais à la maison. Et voilà. Et donc il y a aussi ce questionnement de dire à l'enfant ton papa reste ton papa et ta maman reste ta maman. Et voilà. Et aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que le parent se doit d'avoir une responsabilité encore et toujours avec son enfant, malgré la distance qu'il y a derrière les barreaux, quoi, en fait. Donc c'est plutôt une association qui favorise encore et toujours le lien pour que ça ne se perde pas à la sortie et qu'il ne puisse pas y avoir trop de bouleversements. Déjà qu'il y en a beaucoup, pas mal, hein, quand il y a la question de la détention qui arrive au sein d'une... Il y a une grosse crise qui éclate, hein, clairement. Et souvent, ces enfants-là ont un terreau familial qui est déjà très compliqué. Donc, on pourra en reparler aussi pendant les autres jours de l'événement qu'on vient présenter ici. Et on a une autre association, je me permets de faire un petit focus aussi sur Brin de Soleil, qui est une association qui est vraiment très en lien et au fait aussi avec la question familiale. Brin de Soleil a une maison d'accueil qui s'appelle la Luciole, à la prison des femmes de Rennes, parce que pour les auditeurs qui ne le savent pas, nous avons la chance, entre guillemets, d'avoir une prison pour femmes et une maison d'arrêt à Vezin-le-Coquet pour les hommes, ce qui fait qu'on a de quoi faire sur le thème, en fait. Et donc Brin de Soleil a des maisons, donc une maison Luciole à la prison des femmes et la maison Titom à Vezin-le-Coquet, qui permettent d'accueillir les familles qui viennent de loin ou de pas loin, mais qui ont besoin de poser les affaires, de prendre un café avant, après, de discuter avec des bénévoles parce que ça s'est bien passé ou pas bien passé. Et voilà, ils ont aussi une maison d'accueil qui s'appelle Arc-en-Ciel, qui est dans le quartier de Jacques Cartier, à côté de l'ancienne prison, qui permet aux familles qui viennent de loin de pouvoir être hébergées, parce que souvent, bah, ça coûte cher de faire des déplacements, ou voilà. Et qui permet aussi aux permissionnaires, parce qu'il y a aussi des détenus qui ont des permissions, de pouvoir passer quelques heures et une nuit avec leurs proches quand c'est possible.
Et donc vos actions, c'est globalement sur Rennes et ses alentours. Vous avez parlé de Vezin.
Ouais.
Et des déplacements que certains doivent faire. Mais est-ce que vous travaillez aussi peut-être avec d'autres collectifs prisons dans d'autres villes ?
Alors, on est au courant un peu de ce qui se passe parce que donc, le collectif prison est une action plutôt citoyenne et libre. Hein. Il n'y a pas de tampon collectif prison. Hein. Il n'y a pas d'identité juridique. Donc, du coup, ça se développe et ça se crée comme ça. Mais il y a d'autres collectifs prison qui existent, qui portent peut-être pas ce nom-là. Et en fait, ça dépend d'un collectif plus grand qui s'appelle le Groupe National de Concertation Prison, et donc qui sont à l'origine de se dire à un moment donné, réunissons-nous et essayons de trouver du commun là-dedans. Et voilà, donc c'est eux qui sont porteurs des journées nationales prison. Je spoil un peu le...
Oui. mais je voulais revenir un peu sur le fait qu'il y a des associations qui vont privilégier, enfin qui vont mettre en avant pour garder le lien social et les liens familiaux, avec comme du coup les enjeux d'enfants où c'est du face à face. Il y a aussi, j'ai vu des aides ponctuelles qui sont plus matérielles. Et est-ce que du coup ça c'est pour tout le monde qui puisse aider, ou alors est-ce que c'est plus les bénévoles dans les associations?
Il y a des bénévoles. À un moment donné, en fait, on peut être bénévole quand on veut. Hein. Donc, je dis ça à tout le monde, si on m'entend à cette heure-là, que les associations du collectif ont grandement besoin de bénévoles, généralement. Le bénévolat que vous pouvez connaître aussi, ça s'essouffle un peu, ça demande de l'implication, ça demande de l'engagement, mais il y a aussi des actions qui sont ponctuelles, hein. On arrive en période de Noël, donc autant vous dire que sur certaines associations pour les petits frères des pauvres par exemple, je pense à La Plume aussi, des correspondances qui peuvent se faire avec les détenus, voilà, on peut être bénévole ponctuellement, pouvoir échanger en vrai ou en correspondant, voilà, il y a plusieurs, ou alors aller aussi au Secours catholique ou à la Croix-Rouge pour aller donner des vêtements, voilà, ça commence par là aussi. En fait, la question de l'engagement n'est pas forcément de faire du un pour un, mais aussi de se dire, oh, j'ai envie de contribuer quand même à ça, j'ai des fringues en trop, je vais en donner. Et puis
Et maintenant, on va parler de l'événement, enfin des événements, des Journées Nationales Prison 2024. Est-ce que vous pouvez déjà introduire qu'est-ce que c'est que ces Journées Nationales Prison ?
J'introduis, après je vais laisser mes copains parler, oui, parce qu'ils ne parlent pas et on croit que je suis toute seule. Les Journées Nationales Prison, donc c'est un peu comme le collectif. Alors, le collectif Prison de Rennes a à peu près 12 ans d'existence. Hein, avec au début, ils n'étaient pas nombreux, 5 associations, et après... On est plus d'une quinzaine. Et les Journées Nationales Prison ont commencé quand le collectif s'est formé. Donc ça fait 12 ans environ que ces journées existent. Pareil, ça a beaucoup évolué. Il y a eu une soirée conférence dans un premier temps, un ciné-débat dans un deuxième temps. Et puis après, au fur et à mesure, on a pris de l'ampleur et on a pris les sujets à cœur. Parce qu'en fait, chaque année, site internet, il faut aller sur la Farapège, par exemple, qui organise les Journées Nationales Prison au niveau national, comme son nom l'indique, et il y a un thème chaque année. Et voilà, l'année dernière, c'était sortir de prison, comment réussir l'après. Et cette année, donc, c'est sur la question de la famille, à savoir si la prison est aussi une peine familiale. Donc nous, on y met... Après, je laisse la parole à mes amis. On y met un gros point d'interrogation parce que le sujet est délicat. Il faut se le dire. C'est un peu compliqué parce que pour certains, clairement, ça peut être un soulagement, hein, aussi la détention pour les proches. Et voilà, faut pas oublier, mais faut se dire aussi, quand on n'a plus de famille, comment on fait aussi ? Parce qu'on peut pas être dévoué de lien quand il y a plus de lien. Voilà.
Oui, donc il y a un événement qui est en association avec la FAB, si j'ai bien compris, ou peut-être d'autres événements. En tout cas, celui qui sera le mercredi 20 novembre à la BU de Villejean. Est-ce que, Kaelic, Yuna, vous pouvez nous rappeler, enfin nous dire déjà, qu'est-ce que c'est que la FAB ?
La FAB, du coup, la Fédération des Associations de Haute-Bretagne, c'est une association qui couvre le territoire d'Ille-et-Vilaine et Côte d'Armor et qui a pour but, du coup, de représenter et de fédérer des associations étudiantes dans chaque filière et chaque territoire donné. Donc ça veut dire qu'il y a forcément ou presque des bureaux des étudiants, des corporations ou des associations étudiantes qui jaillissent plus ou moins en fonction des campus et des filières. Et l'objectif, c'est de regrouper l'ensemble de ces étudiants engagés dans leurs associations locales pour pouvoir mener des projets à plus grande ampleur, représenter les étudiants de manière générale, de manière indépendante de tout syndicat ou parti politique, et en mettant en place justement des dispositifs comme peut l'être le dispositif Bouge ta prison, mené par la FAB, qui nous mène à collaborer depuis maintenant 2 ans avec le collectif Prison Rennes. Mmh. Voilà, je laisserai peut-être Yuna parler du dispositif Bouge ta prison.
Oui, donc le dispositif Bouge ta prison, on a principalement 2 objectifs. Donc c'est avant tout sensibiliser sur le milieu carcéral, notamment les étudiants. Et puis aussi, c'est d'accompagner les étudiants incarcérés à une réinsertion professionnelle. Donc, on se charge de recruter des étudiants pour du tutorat universitaire, donc à la fois méthodologique et disciplinaire, en détention, à la fois à la prison des femmes et à la prison des hommes.
Tu as parlé de sensibiliser les étudiants au milieu carcéral. Est-ce que, selon vous, votre expérience, pardon, les étudiants, par exemple, d'ici à Rennes 2, ils se connaissent assez, ce milieu ?
Ça va dépendre des filières, mais non, pas vraiment. On a principalement la filière psychologie qui est très investie, mais concernant les autres étudiants, non, pas vraiment. Ça questionne beaucoup, en tout cas, ouais.
Et donc, pour revenir à l'événement qui se tiendra mercredi 20 novembre, est-ce que donc, c'est une façon aussi de sensibiliser à ce monde, au monde carcéral également ? Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de l'événement, tout simplement ?
Oui, je pense que l'objectif de la FAB d'intégrer ce collectif Prison Rennes, c'est notamment justement de venir toucher un peu les étudiants sur ce sujet et donc de venir proposer un événement au cœur de l'université. Donc cet événement du 20 novembre, on l'a intitulé « Les témoignages vivants ». Il se déroulera de 14h à 17h, mercredi après-midi. Et donc, en fait, ce sont 7 ou 8 personnes qui viendront témoigner de leur engagement associatif, de leur métier, de leur vécu, de leur expérience en détention. Les gens pourront venir pour prendre rendez-vous, puisque c'est un échange duel de 20 minutes. Pour rester dans un cadre très intimiste et vraiment partager une expérience avec toute l'émotion qu'elle procure.
Est-ce que vous aviez déjà organisé des événements de ce style à Rennes 2 ou à Rennes, tout simplement ?
Nous, la FAB, sur la sensibilisation aux étudiants à l'université, on a organisé l'année dernière une conférence au mois de février avec des visiteurs de prison. C'est encore tout nouveau. Le pôle Bouge ta prison n'a que 2 ans, donc c'est le temps que ça se mette en place.
Ouais. Et est-ce qu'il y aurait d'autres projets peut-être que vous pouvez nous parler ou pas encore ?
Avec cet investissement dans le collectif Prison Rennes, le tutorat, puisque bien que, on aide à la formation des tuteurs en début d'année. Donc là, le tutorat a commencé pour cette année, et donc ça va être d'accompagner justement tous ces tuteurs, tutrices qui interviennent tout au long de l'année universitaire en détention. Voilà, de ne pas les laisser seuls avec leurs expériences. De refaire une conférence à l'université de Rennes 2, c'est un projet aussi. Chose que je n'ai pas dite, on aide aussi les étudiants incarcérés qui sortent de prison, que ce soit la sortie de leur peine ou même sur leur permission de sortie, de les accompagner à l'université pour leur faire connaître les locaux, le fonctionnement de la bibliothèque universitaire.
Je voulais revenir aussi aux autres événements des journées nationales prison. Celui qui aura lieu vendredi 22 novembre, donc le ciné-débat avec la projection de T.H. Chappie, un documentaire présentant l'artiste J.R. réalisant une fresque dans la prison de T.H. Chappie. Pourquoi avoir choisi cette projection ?
Parce que le sujet est pas très fun déjà pour commencer. On aime aussi quand même Donc ça fait longtemps qu'on est en partenariat avec le cinéma de l'Arvor. C'est une date un peu ponctuelle et annuelle, plus que ponctuelle en fait, avec au niveau des Journées nationales prison. Donc c'est, on remercie bien Monsieur Gouzané Eric, qui est le directeur du cinéma, de nous ouvrir ses portes comme chaque année. Donc ce sera vendredi à 20h15. Et pourquoi t'es à Tchapi ? Parce que, en fait, c'est un film qui est déjà très très beau. On voit la patte artistique de JR. Et en fait, il arrive à faire ce que le collectif veut faire. Et l'objectif aussi des Journées nationales prison, qui est de... révéler la personne en fait qui est derrière le détenu. C'est aussi ça, c'est l'objectif principal de notre action, c'est de se dire qu'en fait les gens ils sont en détention, mais c'est une situation temporaire normalement.
Oui.
Et donc à un moment donné, quand ils sortiront plus de prison, le but c'est d'enlever cette étiquette sociétale que se mettra automatiquement, hein. Malheureusement on aura beaucoup de mal, hein, avec ça, mais le but aussi c'est de changer le regard de la société et de se dire que voilà, c'est aussi pour ça qu'on est en lien tout particulièrement avec la FAB depuis 2 ans et que vraiment on trouve ça vraiment chouette de les avoir au sein du collectif, de pouvoir venir déjà faire ça à la bibliothèque universitaire, aller voir, comme tu disais Yuna, des étudiants qui sont pas avertis sur la question de la détention. Et le but c'est aussi de parler sur la place publique, c'est ça, les JNP. Alors JNP, Journée Nationale Prison dans le jargon, c'est vraiment d'aller sur la place publique et de dire qu'ils existent, ils existent.
Merci beaucoup Margot, Yuna, Kaelic. Il y avait le témoignage dont vous avez parlé Margot au début, enfin avant l'émission.
Ouais.
Vous pouvez nous le faire écouter.
Alors ça, je vais même le lire.
Ah oui.
Voilà, parce que c'est le témoignage d'une, je remets le contexte, d'une jeune femme qui est venue vers moi suite à la parution de la pub, un peu des JNP, et elle est venue vers moi en me disant « j'ai quelque chose à raconter ». Voici son histoire. Quand j'étais gamine, mon père habitait Jacques Cartier, une grande bâtisse grise et lourde plantée au cœur de Rennes, prison d'hommes, prison de pères. Chaque visite, c'était la boule au ventre. On avançait dans le labyrinthe de fer et de couloirs qui puaient la rouille et l'ennui, avec maman qui serrait ma main comme si elle voulait m'empêcher de glisser dans les entrailles du bâtiment. Les grilles, les portes en métal qui se referment derrière nous comme des mâchoires. Et les surveillants, leurs regards de vide, leurs sourcils froncés qui nous toisent comme si j'étais coupable moi aussi d'être là et de vouloir serrer mon père dans mes bras. Puis on entrait dans la petite pièce, le parloir, un couloir jaunâtre, étroit, étouffant les murs, couleur de bile, le crépi qui s'effrite comme des croûtes. Espace exigu, marquant les années, les rencontres muettes, les silences plus longs que les mots. Il y avait un cadre, une sorte de fenêtre, pour pas regarder dehors, mais pour nous séparer, faire que nos corps ne se retrouvent pas. Je me collais à ce bord minable et accrochais mes petites mains là où s'effritent tous les doigts des gamins d'avant, de maintenant, de toujours. Mon père était là, dans ce rectangle qu'il ne fallait pas traverser. Le surveillant, comme un gardien de pierre qui passait et repassait dans son dos, pas de débordement. Le cadre qu'on ne dépasse que du bout des doigts, sous surveillance. Je ne pouvais pas me hisser contre mon père, me blottir dans ses bras et sentir son odeur dans le creux de son pull, comme un petit animal. Autour de nous, les voix traînaient mollement dans l'air, comme si le moindre bruit de vie dérangeait. Mon père, il avait l'air fatigué, usé comme les murs. Ses yeux me cherchaient, au-delà de ce qu'on ne pouvait pas franchir. Et je me disais, c'est lui, c'est bien lui, mais ce cadre, ça le mangeait, ça le grignotait. Et moi, je pouvais rien y faire, presque rien à gripper, juste rester là et tenter de lui sourire. Et il essayait de faire pareil, et on échangeait des sourires brisés de ceux qu'on devine à moitié derrière le cadre sale. Le surveillant repassait dans son dos, et parfois je me demandais ce qu'il pensait de nous. Peut-être qu'il se disait qu'on avait mérité ça. En tout cas, lui, il surveillait. Comme si on allait se fondre, mon père et moi, juste en se regardant. Il passait et repassait, et sa présence nous rappelait que cet instant ne nous appartenait pas vraiment. C'était un temps, pas plus. Alors je lançais un dernier regard à mon père, avant de se quitter. Et ça faisait mal, chaque fois. Comme si on m'arrachait une part de moi, une part fragile et tendre que personne ne comprenait. Là, dans ce couloir jaunâtre, où même les murs pleuraient, où tout s'effritait doucement. Quand on sortait, je sentais toujours cette absence, un creux, là, dans la poitrine, un silence. Et même après toutes ces années, c'est encore là, quelque part, ce parloir. C'est une cicatrice, un tatouage invisible qu'on porte, pas par choix, mais parce qu'on n'a pas eu le choix. Je remercie d'avoir pu mettre ce témoignage en valeur, parce que je l'ai trouvé très beau.
Ben, merci à vous, Margot, c'est bien. Merci à tous les trois d'être venus ce soir dans 6 heures avant minuit. Donc on le rappelle, les JNP, Journée Nationale Prison, c'est du 14 au 22 novembre à Rennes.
6 heures avant minuit.
Le lundi, c'est chronique fake news. Ce soir, c'est Aglaé qui nous lit sa chronique. C'est une véritable guerre entre qui rachètera le plus de médias en ce moment, Aglaé.
C'est ça. InfoWars, en français, guerre d'information, est un site internet américain. Depuis 25 ans, il propage de fausses informations et des théories de complot, ce qui l'a mené à sa chute. Le 14 novembre, on a appris son rachat par The Onion, un média d'information satirique américain. Pour ce faire, il s'est associé à des familles de victimes d'une fusillade datant d'il y a 12 ans. Revenons aux sources de cette affaire. Tout remonte en 2012. Le 14 décembre, Adam Lanza, 20 ans, entre dans l'école primaire Sandy Hook, dans le Connecticut, aux États-Unis. Il y tue 26 personnes, dont 20 enfants, avant de se suicider. Ce massacre avait bouleversé le monde entier par sa violence. Et c'est là qu'intervient Alex Jones, le créateur de InfoWars, figure de l'extrême droite et du conspirationnisme américain. Pendant des années après cet événement, le site internet a affirmé que la fusillade n'avait jamais eu lieu et que tout était orchestré par le gouvernement dans le but de mieux contrôler les armes. Pire encore, InfoWars déclarait que les familles des victimes étaient des acteurs. Ce qui a conduit à un harcèlement massif des familles, allant même jusqu'aux menaces de mort. En 2018, 7 familles concernées portent plainte pour diffamation contre Alex Jones et son site. Il est alors condamné à verser près $1 milliard. 4 ans après, il leur doit presque $500 millions supplémentaires en dommages et intérêts. Il avait déclaré n'avoir que quelques centaines de milliers de dollars sur son compte en banque. InfoWars avait donc été placé en liquidation judiciaire et vendu. Sa vente a pu avoir lieu grâce à la participation financière des familles, renonçant à une partie de l'argent qui leur revenait. Une belle revanche pour elles, car le site devrait devenir, selon les plans de Ben Collins, le propriétaire de The Onion, le site le plus stupide d'Internet. À partir de janvier 2025, InfoWars deviendra une parodie de lui-même en se moquant des désinformateurs. Mais Alex Jones et d'autres membres du site, s'enfonçant dans les mensonges, ont affirmé que la vente avait été annulée. Ben Collins a immédiatement réagi sur X en disant que c'était faux. En parallèle, un juge texan a estimé que le processus de vente d'InfoWars n'était pas très transparent. Il a demandé une nouvelle audience pour évoquer les potentiels problèmes. Cela pourrait mettre des bâtons dans les roues de The Onion. Il y a autre chose qui pourrait bloquer quelque peu l'avancée du média. Les 630 000 followers de InfoWars et les 3,2 milliards de fervents défenseurs d'Alex Jones sur X. Beaucoup le soutiennent et pire encore, le croient. Cette affaire illustre l'attirance de certains citoyens et citoyennes pour le complotisme, mais aussi une vive défiance envers les journaux dits « traditionnels ». Celle-ci, tout comme la présence de l'extrême droite dans les médias, n'est d'ailleurs pas qu'une spécialité américaine. On trouve ça aussi bien en France. Pour prendre un exemple récent, la semaine dernière, l'école supérieure de journalisme de Paris a été achetée par un groupe d'investisseurs conservateurs dont Bernard Arnault et Vincent Bolloré. Bolloré, connu pour exercer son influence conservatrice sur les journalistes de ces médias.
Merci Aglaé pour toutes ces informations. Avant de se quitter, j'ai juste un dernier petit message à vous faire passer.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllabe, la radio sauvage.
Mais peut-être que c'est vous derrière votre poste qui avait un message à nous faire passer. Peut-être qu'il y a un fait marquant près de chez vous dont vous aimeriez nous faire part. Peut-être que vous voulez faire passer une déclaration d'amour, ça c'est déjà fait. Ou alors passer un coup de gueule. Vous avez peut-être sinon un retour sur nos reportages. Laissez-nous un message vocal. Ça se passe au 02 30 96 25 35. 02 30 96 25 35. Il sera peut-être sûrement diffusé à l'antenne. Merci Pierre-Louis pour la technique. On vous dit à demain.
La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.